Olivier Lam, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis heureuse de te recevoir pour la deuxième soirée donc, de notre cycle Profession Reporter, qui s'interroge sur les évolutions de la presse et des métiers de l'information aujourd'hui. Alors, Olivier, tu es journaliste musical. Tu écris pour Libération, pour Audimat, dont on a des numéros ici. Mais aussi pour un blog, une revue en ligne, The Drone.
Un site musical.
Ouais. Alors, la dernière fois, on avait accueilli un journaliste politique qui avait fait une école de journalisme. Et en m'interrogeant aujourd'hui, je me disais que les journalistes culturels en général, et notamment les journalistes musicaux, font rarement des écoles de journalisme et ont des parcours plutôt différents.
Je ne vais pas parler pour mes collègues qui ont des parcours tous très différents les uns des autres, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait des études qui n'avaient absolument rien à voir. Je viens du fanzina à la fin des années 90, quand on voulait écrire sur la musique et qu'on n'était pas professionnel. On faisait son propre média et on allait ensuite photocopier, etc. Et donc j'ai cofondé un fanzine avec des collègues à la fin des années 90, qui s'appelait Planet of Sound, qui a duré 2 ans. Et qui nous a permis tous, plus ou moins, de se faire connaître dans la presse plus professionnelle. J'ai des collègues qui sont partis ensuite chez Rock & Folk, etc. Moi, j'ai commencé à écrire pour un journal en ligne qui s'appelait Chronic Art. Voilà. Et j'ai pas fait d'études de journalisme. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de journalistes musicaux qui sont... Il y a des journalistes musicaux qui sont également musiciens, c'est ton cas.
Ouais.
Alors, quel lien fait-on entre ces deux activités? Est-ce qu'elles se nourrissent? Est-ce qu'elles sont antinomiques?
Elles sont un peu antinomiques. C'est un peu difficile d'être des deux côtés de la barrière. Moi, j'ai eu tendance à penser à une époque que ça m'empêchait de faire mon travail correctement, en tout cas mon travail de musicien. Du coup, par contre, ça m'aide plutôt pour écrire sur la musique parce que du coup, je sais comment elle est faite. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé quand je lisais certaines chroniques, certains articles sur la musique. Ils étaient vraiment vraisemblablement écrits par des gens qui ne savaient pas comment fabriquer la musique, notamment les techniques de studio, etc. Et qui étaient obligés d'avoir recours à des jargons très poétiques, etc. Ça permet d'aller de poser des questions plus techniques aussi aux musiciens, ce qui n'est pas forcément très intéressant non plus pour le lecteur. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre quelque chose de trop technique et quelque chose qui n'est pas assez. Voilà. Après, le problème, c'est en tout cas, moi, dans mon travail de musicien, enfin, je ne suis pas aujourd'hui là pour parler de mon travail de musicien, c'est quand on est confronté à des quantités de musique assez astronomiques au jour le jour, on se demande vraiment à quoi ça sert de continuer à faire de la musique. Voilà. À qui on s'adresse quand on se pose la question de savoir si on ne rajoute pas du bruit sur le bruit un peu. Voilà. En tout cas, moi, ça a été mon cas.
Alors, tu écris à la fois dans un organe de presse très généraliste, Libération, et aussi dans donc un site, The Drone, qui est spécialisé donc en musique électronique.
Non, pas seulement. Musique actuelle.
Ouais. Et dans une revue Audimat qui est assez particulière, on pourrait dire que c'est une revue un peu de littérature sur la musique avec des articles très longs, pas forcément qui sont dans l'actualité.
Et qui sont même a priori hors de l'actualité volontairement. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc c'est 3 discours extrêmement différents. Donc comment ça se passe pour toi pour la recherche des sujets comment tu travailles avec les comités éditoriaux de ces différents organes?
Je vais commencer par l'organe où je suis rédacteur en chef, donc The Drone, qui est un site sur la musique. Là, j'ai carte blanche, même si le fait d'être sur Internet et d'avoir un retour en temps réel des articles qui sont lus et des articles qui ne sont pas lus influence forcément les sujets sur lesquels on va écrire. C'est un juste milieu entre assumer un côté prescripteur et écrire sur les choses qui nous intéressent quoi qu'il arrive et puis quand même essayer un peu d'aller vers le public et de voir ce qui l'intéresse. Pour Libération, ça se passe vraiment main dans la main avec Julien Gester et Didier Perron qui sont rédacteurs en chef de la rubrique culture de Libération et plus spécifiquement Julien Gester sur la musique. Et ensuite, c'est vraiment entre mes propositions, ses propositions et on décide. Enfin, c'est lui qui décide. Voilà, au final, c'est pas moi qui choisis mes sujets, mais enfin, je les propose. Voilà. Et pour Audimat, ça a rien à voir. C'est là pour le coup, c'est vraiment de pareil, c'est le comité éditorial, donc qui est Étienne Menu, qui est composé de Étienne Menu et Guillaume Auguet, qui acceptent ou refusent les sujets qu'on leur fait. Moi, je leur, comment dire, on se connaît suffisamment pour pouvoir en discuter, voilà. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'ordre de d'aller plus près de la théorie, même si la théorie en critique musicale, c'est quelque chose de qui est très large. Hein. Ça va vraiment de l'anthropologie jusqu'à la sociologie. C'est quand même quelque chose de très large. Et moi, j'ai écrit sur des sujets qui m'intéressaient, qui me tenaient à cœur et qui avaient autant à voir avec l'histoire qu'avec voilà, une sorte de analyse technique, esthétique. Voilà, j'ai écrit un article sur les évolutions du son de la caisse claire dans la pop musique depuis les années 60. Et l'autre, un sujet qui est sur la musique pop électronique japonaise du début des années 80. Voilà, qui pour le coup est vraiment un sujet extrêmement spécifique. Voilà.
D'ailleurs, c'est assez particulier. Donc, c'est une revue qui existe depuis quoi, deux ans, c'est ça ?
Elle existe depuis un peu plus de deux ans, ouais, c'est ça.
En fait, c'est voilà, en 2013-2014, sortir une revue papier, c'est un petit peu révolutionnaire, un peu à rebours des pratiques de discours majoritaires sur la musique.
Alors après, c'est né d'une volonté vraiment de sortir de l'actualité et surtout d'élever le débat sur la manière dont on parle de musique en France. Je ne veux pas parler à la place d'Étienne et Guillaume qui ont fondé la revue, mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y a une résonance vraiment dans le fait de parler de musique autrement en France, c'est-à-dire sortir du débat critique de l'actualité, etc. Et puis pouvoir se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre, on va dire, dans la presse papier plus classique, qu'elle soit spécialisée ou généraliste, qui force à s'adresser à un grand public. Là, on s'adresse à un grand public curieux, voilà, c'est-à-dire qui peut être intéressé de lire des articles sur des très, très en profondeur sur des sujets qui, a priori, ne connaissent pas. C'est tout le pari de cette revue et voilà, de parler de musique autrement, de musique actuelle, principalement autrement, en montrant que la musique, ça peut être un sujet digne de critique très poussée et que ça peut être une manière de parler du monde autrement aussi. Voilà, on n'est pas là pour juste parler de musique. La musique, c'est un prisme avant tout. Voilà.
Alors, pour préparer cette soirée, je t'avais demandé quels étaient les auteurs, les livres, voilà, les maisons d'édition peut-être qui avaient compté voilà, dans ta carrière de lecteur de critique musicale. Voilà, donc tu m'avais parlé de par exemple de Simon Reynolds qui a écrit ce livre, donc dans cette collection, c'est les éditions Alia, donc qui ont édité beaucoup de livres très intéressants sur la musique, dont beaucoup sont disponibles, hein, dans l'espace musique, mais aussi par exemple ce livre maintenant assez connu, Retromania. Est-ce que tu peux nous dire deux mots donc sur voilà tes différentes influences?
J'ai commencé comme j'ai découvert la musique par la presse dans les années 80-90. J'étais un lecteur avide des Inrecuptibles à l'époque où ils étaient mensuels. Ensuite, quand ils étaient hebdo, parce qu'ils parlaient de musique qui passait absolument pas à la radio, qui passait absolument pas à la télé. Et ils parlaient de musique surtout comme un sujet extrêmement culturellement très digne, et il consacrait des très longs articles à des artistes absolument inconnus, enfin, pour moi en tout cas, pour le jeune homme que j'étais. Et ensuite, donc, je suis tombé amoureux de certaines plumes, quoi. Je me souviens très, très bien, j'adorais les articles de Jean-Daniel Beauvallet quand j'avais 15 ans. Voilà, et là, c'est plus par la langue en fait que je découvrais des artistes, c'est-à-dire que j'aimais les articles de certains journalistes. Et je pouvais acheter un disque sur la foi d'une chronique parce que j'avais aimé comment elle était écrite. Ensuite, quand je suis devenu un peu plus âgé et que j'ai commencé à m'intéresser, à mieux connaître la musique, c'est vrai que c'est surtout des auteurs anglo-saxons qui m'ont beaucoup intéressé parce que je trouvais que beaucoup de livres écrits sur la musique en France restaient soit sur des clichés, voilà, de mode de vie, rock, punk, etc., qui ne m'intéressaient pas beaucoup, soit étaient vraiment dans des choses très factuelles, très littérales, pas très poussées. Et c'est beaucoup d'auteurs anglo-saxons que j'ai découvert, notamment en lisant certaines publications. J'ai été abonné à un journal qui s'appelle The Wire, qui est un journal qui existe encore aujourd'hui.
Je lisais, qui est dans l'espace musique.
Qui est un journal écrit en anglais, mais qui est vraiment un journal de référence sur les, on va dire, sur la musique aventureuse. Je lisais aussi des publications sur la musique électronique comme Mixmag dans les années 90, début des années 2000, parce que j'adorais le ton, parce qu'il y avait de l'humour, parce qu'il y avait de l'ironie, et je trouvais ça génial. Alors qu'en France, j'avais l'impression que la musique électronique, c'était quelque chose de très sérieux et assez pontifiant. Voilà. J'ai ensuite découvert certains auteurs qui sont des auteurs que j'aime beaucoup parce qu'effectivement ce sont des auteurs qui n'ont pas peur de tenter des théories et de parler d'autre chose que de musique quand ils parlent de musique. Voilà. Simon Reynolds dont j'ai dévoré tous les livres, en plus dont les sujets de prédilection, le rock indépendant anglais des années 90 jusqu'à la musique électronique, le post-punk, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Ou Retromania, qui est un livre qui est, je pense, un des livres les plus éclairants sur la situation dans laquelle on est par rapport à la musique aujourd'hui, c'est-à-dire notre obsession pour la musique du passé et notre incapacité à voir que l'incapacité de la musique, notre impression que la musique est incapable de figurer le futur, alors que dans les années 90, il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau disque qui arrive qui nous montre que la musique pouvait incarner quelque chose d'être vitesse comme ça, de foncer vers le futur, qui est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui. Ou pour plus proche de nous, Paco Pielman, qui est quelqu'un qui n'hésite pas à utiliser la musique pop, parler d'Elvis Presley ou des Beatles pour parler complètement d'autre chose. Et ça me fascine totalement. Voilà.
Alors, pour arriver dans le vif de notre sujet, donc les évolutions des discours sur la musique, on peut se dire que la critique musicale naît en même temps que la presse au XVIIIe siècle, puis elle se développe au XIXe siècle avec certains musiciens comme Wagner, hein, qui font couler énormément d'encre. Par exemple, Nietzsche parlait de Wagner, mais aussi dans les revues plus populaires, c'était aussi un musicien populaire. Mais avec l'avènement du jazz et puis surtout des musiques électriques donc après-guerre, des périodiques spécialisés naissent, ainsi que donc des périodiques grand public, ainsi que des fanzines. Donc on a toujours cette double expression. Et la critique musicale vit alors un certain âge d'or, hein, dans les années 60-70, pour complètement changer donc au tournant des années 2000 avec Internet. Donc la première manifestation de ce tournant, donc en 2002-2003, il s'agit des blogs musicaux qui permettent à la fois une certaine banalisation du discours sur la musique, puisque voilà, tout le monde peut faire un blog et y aller de son avis, mais aussi une spécialisation autour donc de personnes qui s'emparent de niches musicales qui étaient peu ou pas abordées en fait dans la presse grand public, qu'il était peut-être dans les fanzines. Donc voilà, en fait, on a cette double tendance du blog. Alors, qu'est-ce que ça a changé justement dans le discours général ?
Avant de changer le discours, je crois que ça a changé la mélomanie en fait en général. Ça a changé notre rapport à la connaissance musicale. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'amateurs qui s'emparent de sujets, effectivement, comme tu dis, de niches. Ça a fait connaître beaucoup de musique peu connue à beaucoup de monde.
Est-ce qu'il y a des blogs qui marchent encore aujourd'hui que tu aimes particulièrement ?
Alors, c'est des blogs anglo-saxons, surtout. Il y en a un auquel je pense qui est devenu un blog professionnel qui s'appelle 20 Jazz Funk Greats, du nom du disque de Throbbing Gristle. Voilà, 20. Je crois que c'est maintenant, c'est 20 Jazz Funk Greats. Allez faire un tour là-bas si vous pouvez. Après, il y a eu un âge d'or des blogs qui rééditaient d'office, sans demander l'autorisation, des disques complètement hors de circulation. Et ça a vraiment relancé une certaine idée de l'érudition musicale en dehors des cercles spécialisés, c'est-à-dire des conventions de disques. C'était un domaine qui était vraiment professionnalisé et ça l'a démocratisé, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, sur l'écriture, oui, ça a tout changé. Ça a tout changé, ça a fait que dans toutes les rédactions des magazines papier, on s'est senti en danger et on a voulu réinventer le format d'écriture sur la musique. Il a fallu raccourcir cette idée que le lecteur n'avait plus le temps. Et ça a changé quelque chose aussi par rapport à l'autorité du journaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, il y avait le journaliste qui donnait son avis et puis il y avait le lectorat.
Et ensuite, le lectorat est devenu critique. Et il y a un dialogue qui s'est installé. Et il y a aussi une concurrence qui s'est installée. Et jusqu'à ce que la parole, on va dire l'autorité du critique, soit remise en cause. Ce qui a d'abord été une bonne chose. Ce qui est toujours quelque chose de très, on va dire, de très intéressant, de très intriguant, mais qui rend aussi le travail de journaliste difficile, parce que il faut sans cesse faire valoir une autorité d'une manière ou d'une autre, par le savoir, par la rhétorique aussi. Voilà, c'est plus du tout pareil de s'adresser à un lecteur que ça l'était avant, où on était un peu, voilà, où le journaliste était un peu dans sa tour d'ivoire et il donnait son avis de manière autoritaire, j'ai envie de dire. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que on parle à égalité, littéralement, quand on écrit sur Internet, on parle à égalité avec la vox populi, quoi. C'est...
D'autant plus depuis le tournant des réseaux sociaux, 2007-2008, ça a encore changé quelque chose ?
Ça a complètement changé les choses. Après, on n'écrit pas pareil quand on écrit pour un journal que quand on écrit sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains disques sur lesquels on doit statuer à un moment ou un autre, qui ont déjà été écoutés et débattus énormément sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on ne peut plus intervenir sans prendre en compte le bruit qu'il y a autour de la sortie d'un disque, qui n'est pas forcément un fait marketing d'ailleurs, qui peut être vraiment quelque chose de spontané. Et ça, évidemment, ça change. Enfin, on ne peut pas être un journaliste qui écrit dans le monde. Enfin, on vit dans le monde dans lequel on vit, donc il faut prendre en compte tout ça, et il faut prendre en compte ça dans la manière dont on ébauche des critiques. Après, il y a un moment quand on écrit, il faut prendre de la hauteur par rapport à son sujet, c'est obligatoire.
Il y a quelques jours, quelques semaines, tu parlais sur France Culture, pardon, du dernier album de Kanye West, justement en fait de cette multiplicité des discours sur la sortie de l'album et pas vraiment sur la musique elle-même.
Ah bah alors, oui, alors ça pour le coup c'est vraiment le fait du marketing, c'est-à-dire qu'il y a certains disques qui nous arrivent et qui ont une telle présence, telle surprésence médiatique que effectivement au moment où le disque arrive, on peut plus seulement le prendre comme s'il nous arrivait du jour au lendemain dans un magasin, comme c'était le cas à une certaine époque où quand il y avait un disque qui était très attendu, il y avait un jour J où il sortait, il arrivait dans les magasins et on pouvait voilà. Ce qui a aussi changé, c'est qu'avant le journaliste il était un peu dans le secret des dieux, dans le sens où il recevait un disque en avant-première. Il avait le droit d'écouter un disque en avant-première. Aujourd'hui, c'est encore un peu le cas, mais ça l'est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la promotion d'un disque, elle se fait sur un, c'est tout un déroulé marketing où il y a un premier morceau qui est révélé, voilà, ensuite une écoute qui est organisée, un clip, un machin. Et que quand on écrit, notamment sur Internet, il faut prendre acte de toute cette présence médiatique au fur et à mesure, sous peine de passer à côté d'une actualité. Voilà, l'actualité aujourd'hui, elle est plus du tout, sur les mêmes temps et sur la même simplicité qu'avant. Aujourd'hui, elle est multiple, elle est incessante. Et là, voilà, ça atteint une sorte de summum et de saturation médiatique avec Kanye West, effectivement, où pendant deux semaines, sur tous les sites musicaux, on n'entendait parler plus que de ça. C'était complètement fou. Voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile de prendre de la distance avec ça quand on est journaliste, puisque, évidemment, vous avez un rédacteur en chef qui vous appelle et qui vous dit bah, « il faut que t'en parles ». Mais quand est-ce qu'on lui dit « bah non, là, on va pas en parler » Parce que quand on est sollicité toutes les trois heures, et qu'on en vient à commenter des tweets, là on a l'impression qu'on ne peut plus faire son travail, quoi.
Alors, un autre impact d'Internet, c'est tout à l'heure, je lisais un de tes articles sur The Drone et tu avais mis des pistes audio donc de l'artiste dont tu parlais. Et donc je me suis rappelée de mes premières... notre génération, les années 90, avant que les vinyles soient réédités en CD, donc certains n'ont jamais été réédités, on lisait des critiques de disques auxquelles on savait qu'on n'aurait jamais accès, enfin qu'on n'aurait pas accès avant une dizaine d'années, et en fait on lisait le texte pour lui-même. Alors aujourd'hui, il y a une abolition de cette différence entre le texte et l'audio, il y a une sorte d'instantanéité de la lecture et du son.
Oui, d'où le soupçon de le soupçon que le journaliste en fait est complètement le discours du journaliste est redondant, parce qu'effectivement aujourd'hui quand on reçoit quand on commente un morceau qu'on donne à écouter au lecteur, qu'est-ce qu'on raconte? On peut pas décrire la musique, enfin on peut le faire, mais ça pose tout un tas de questions et ça change complètement l'écriture, effectivement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, je pense à juste titre, s'interrogent sur sur l'utilité du journaliste ou du discours critique dans ces moments-là. Et c'est vraiment au journaliste de montrer qu'il est indispensable d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas facile. Faut dire que quand on met un morceau en écoute, la plupart des gens, ils viennent sur la page et puis ils écoutent le morceau. Ils vont pas lire le texte qui va avec. Donc c'est faut trouver, faut tout le temps aller chercher les gens, leur montrer que c'est pas inutile le discours, que c'est pas inutile la critique, que on a quelque chose à leur apporter. C'est pas évident et il faut leur montrer qu'on n'est pas à égalité par rapport à ce morceau de musique. Enfin, on peut être à égalité avec des gens qui connaissent extrêmement bien la musique, mais ça serait un peu oublié qu'il y a une grande majorité de gens qui restent démunis par rapport à un morceau, même quand ils peuvent l'écouter, et que c'est d'autant plus important quand la musique est intrigante, étrange, difficile à aborder auprès de la première écoute. Il n'y a pas que des musiques faciles à aimer à la première écoute. C'est cette musique-là qu'il faut vraiment considérer qu'on est là pour un peu mettre le pied à l'étrier des gens. Ou alors amener un discours sur un disque effectivement sur lequel ils pensent qu'ils sont déjà fait un avis. Peut-être essayer de leur faire un peu vaciller leur opinion qu'ils sont déjà faites, parce qu'aujourd'hui les gens se font leur opinion extrêmement rapidement. Il faut aussi faire une différence entre la critique et l'opinion. C'est pas la même chose. Moi, quand on me demande de ce que je pense d'un disque, je dis pas ce que je donne pas mon opinion. Je donne pas mon avis personnel. J'essaie de donner un avis qui est nourri de réflexion, de savoir. Et je suis pas là pour raconter ma vie et la manière dont le disque plaît ou plaît pas à ma femme. Enfin, c'est pas ça le sujet, quoi. Voilà.
Alors, il y a un autre aspect en fait important de la critique musicale et enfin qui nous parle particulièrement à nous puisque nous sommes bibliothécaires et un de nos axes, c'est également la prescription. Donc voilà, la prescription, c'était un axe fort de la critique musicale. Aujourd'hui, elle est donc remplacée, mais très fortement assurée donc par la prescription de pair à pair hein, dans les réseaux sociaux, par exemple, sur les blogs, mais aussi, ce qui est plus étrange, par les algorithmes de recommandation, donc par exemple sur Deezer, Spotify. Donc, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, je pense que là, voilà, typiquement, le journaliste, il a un rôle à jouer. Y a une vraie naïveté, je pense, de beaucoup de gens, notamment sur Internet, qui pensent que qui sont pas influencés, que quand ils écoutent un disque plutôt qu'un autre, c'est parce qu'ils l'ont décidé, qu'ils sont totalement insensibles et imperméables aux lois du marketing. Or, le marketing, il a changé. Le marketing aujourd'hui, il agit plus seulement à travers la promotion des disques, il agit plus seulement à travers par exemple la manière dont les journalistes peuvent être influencés. Il agit aussi effectivement à travers des petites formules mathématiques complexes qui font que quand on va sur YouTube ou sur Deezer ou la musique qu'on nous propose d'écouter, on a l'impression qu'elle est extrêmement bien pensée, qu'elle est pour nous, qu'on peut découvrir la musique à travers ses propositions, tout en gardant son libre arbitre. Or, c'est pas vrai, on est influencé. Et ces algorithmes-là, on peut tout à fait faire en sorte qu'ils fassent de la pub pour de la musique qui après ne nous intéresse pas. Et effectivement, les algorithmes nous enferment en fait dans quelque chose qu'on connaît déjà. C'est pareil sur les réseaux sociaux. On a l'impression de parler à tout le monde. En fait, on parle tout le temps aux cinq mêmes personnes. C'est pas par hasard. C'est parce que les algorithmes ils nous cachent aux autres. C'est pareil pour la musique. La musique est extrêmement variée actuellement. Et effectivement, les médias, notamment les médias en ligne, ont un grand rôle à jouer pour tout simplement faire une sélection. Après, c'est une sélection qui est pas pour tout le monde, qui est subjective, mais ça reste une sélection. Et c'est comme pour tout, c'est comme pour les gens qui travaillent pour des labels, par exemple. Bah, c'est important d'avoir quelqu'un qui choisit la musique qui sort et la musique qui sort pas. Tout ça ne peut pas peut pas vivre uniquement à travers voilà, la loi de la jungle et celui qui parlera le plus fort fera connaître sa musique. Ça, malheureusement, on est beaucoup trop sur cette planète pour que ça fonctionne comme ça. Il faut à un moment faire confiance à des prescripteurs. C'est très important.
Alors une autre chose qui a changé, donc du coup ces algorithmes qui nous proposent des recommandations nous proposent des playlists et voilà encore une modification d'objet. L'album donc qui était l'objet, enfin avec la chanson, hein, mais l'album était quand même l'objet principal de production et donc de critique musicale est remplacé maintenant par la playlist, donc un objet beaucoup plus fluctuant. Comment le critique, comment les discours sur la musique peuvent gérer ça?
C'est compliqué. Moi, je suis de la vieille école. Hein. Je continue à écouter des albums. Je continue à écouter des disques. J'ai des CD à la maison. J'ai des compact disques. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ce mot, un compact disque. On n'est pas là pour critiquer des playlists. On est là pour critiquer des œuvres. Alors, il y a des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui ont pris en compte cette évolution-là, et qui du coup propose des formes musicales qui sont beaucoup plus mutantes. On parlait de Kanye West tout à l'heure. On ne sait toujours pas si le dernier disque qu'il a sorti il y a deux semaines est un album ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas s'il va changer des morceaux dedans, en rajouter, en enlever. Typiquement, on est face à un cas d'un objet qui est complètement fluctuant et qui dépasse totalement notre acception du mot album. On s'adapte et on essaye de pas non plus rentrer de jouer le jeu de cette espèce de bruit permanent. Parce que si on se contente de parler de morceaux de musique qui arrivent comme ça sur Internet, on se retrouve à être tout le temps dans un flux. Moi, c'est un peu quelque chose qui me rend triste. C'est pour moi, la musique, c'est quelque chose de sérieux et c'est des œuvres d'art. Et une œuvre d'art, c'est quelque chose qui doit pouvoir rester, si c'est quelque chose d'important. Et pour pouvoir rester, il faut avoir une forme et notamment une des formes qui marche bien pour la musique, c'est l'album. Donc on est encore sur ces vieux schémas-là parce qu'on en est encore à essayer de prendre en compte des propositions artistiques d'artistes qui ont besoin qu'à un moment... que leur art il soit considéré comme terminé. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Après, la manière dont les gens vont consommer ça, c'est quelque chose qui nous dépasse encore tous, qui est quelque chose qui est en mutation aussi. Je ne sais pas si ça va continuer, je ne sais pas si ça va continuer à être extrêmement totalement atomisé. J'ai bien peur que si on continue à consommer la musique comme ça, on en vienne un peu à épuiser un peu, que les gens en fait en viennent à considérer que la musique d'avant était meilleure. C'est-à-dire que si plus rien est fixé, si plus rien est inscrit dans une forme un peu pérenne, j'ai bien peur que la musique des années 2010, qui est faite que de playlists justement, on l'oublie et qu'on en revienne à des disques des années 80, des années 70. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de recherche de sens dans tout ça et la playlist, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà.
Oui, pour moi, ça me fait penser en fait à tout ce qui s'est passé médiatiquement juste après la mort de David Bowie, donc avec toutes les revues, y compris, ils en parlaient dans le Figaro Madame, enfin des choses, on n'aurait jamais imaginé ça. Toutes les revues, c'est leur couvre, parlaient énormément de David Bowie. Je pense que ça répondait effectivement à cette quête de sens, en fait, de l'aura, de l'objet, enfin des albums de David Bowie, mais également de sa carrière. En fait, une sorte de sens artistique qu'on retrouve moins aujourd'hui. Peut-être que les gens recherchent moins dans la musique d'aujourd'hui sans même y prêter attention.
Ce qui est dommage parce qu'il y a tous les jours, il y a des disques tout à fait valables, enfin tous les vendredis, pas tous les jours, mais qui sortent et qui sont tout à fait dignes d'être écoutés avec attention. On n'est plus effectivement à cette époque où un disque, c'était quelque chose qu'on allait acheter en magasin, sur lequel il y avait des informations, sur lequel des fois il y avait il y avait un manque d'informations aussi. Et on rentrait à la maison et on avait deux images. Et à partir d'une image et de 40 minutes de musique, on pouvait complètement se faire un monde total de tout. Voilà, David Bowie, c'est un bon exemple. Voilà, il donnait des œuvres musicales qui étaient suffisamment denses et suffisamment complexes pour qu'on puisse vraiment qu'on ait de quoi mâcher pendant longtemps. Et si on s'achetait un seul album par mois, et ben on le... Voilà, c'était quelque chose qui était extrêmement important dans nos vies. Voilà, je pense que la musique, elle reste très importante dans la vie de beaucoup de gens. Mais il faut se battre pour imposer des œuvres d'art contemporaines, actuelles, faites par des artistes jeunes aujourd'hui qui ont besoin qu'on prête la même attention à leur musique qu'on prêtait à David Bowie dans les années 70. C'est pas vrai que la musique aujourd'hui est moins dense, moins importante, moins ambitieuse. Il y a énormément de musique absolument passionnante. Et voilà, typiquement, c'est le rôle du journaliste d'essayer de pointer du doigt les choses qui valent le coup.
Alors, il n'y a pas longtemps, on avait reçu le chercheur Jonathan Stern, qui a écrit une histoire de la modernité sonore. Il a également écrit un livre sur le format MP3. Donc, pour lui, ce format, donc, qui était massivement présent ces dernières années, modifie la façon d'écouter de la musique, vous savez, parce que c'est un format de compression, mais aussi, ce qui est très différent par rapport aux années 70, c'est que maintenant, on écoute massivement la musique seule et en mouvement, dans la rue, dans les médias, etc. Mais ça change aussi la façon, peut-être, de faire de la musique. Donc, c'est une question qui recoupe pas mal ma précédente question sur les playlists.
C'est un très vaste débat. Je pense que le MP3, ce qui compte, c'est moins. C'est pas une histoire de qualité sonore, c'est le fait qu'effectivement la musique, elle peut circuler beaucoup plus facilement qu'avant. Voilà. N'importe qui peut faire un morceau. Je peux enregistrer ma voix, faire un MP3, le mettre sur. L'envoyer en 4G et là il y a quelqu'un au Japon ou à Bangkok ou en Russie qui va pouvoir le télécharger, l'écouter. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. C'est très difficile, je pense, pour un musicien de prendre en compte ça de manière consciente. Voilà. Après, il y a énormément d'artistes qui essayent de prendre en compte cette espèce de tourbillon d'informations complètement dingue qui est extrêmement exaltant mais qui est aussi qui nous enferme aussi un petit peu dans cette impression que plus rien n'a d'importance et que voilà on a tous voilà quand on passe 2 heures sur internet on a l'impression d'être plat quoi, on a l'impression de plus avoir de volume. C'est important de pouvoir prendre un peu de la distance et il y a des musiciens qui prennent en charge ce régime d'information là, voilà. J'ai pas envie de dire qu'il est bon ou mauvais parce qu'on n'a pas de choix. Voilà. C'est important de souligner quand on est critique de dire qu'il y a des musiciens qui essaient de prendre ça en compte et qui produisent des œuvres musicales qui sont effectivement qui essaient de totalement se lever dans ce régime là. Ça donne des choses très déstabilisante.
Tu penses à qui, par exemple ?
Je pense à un artiste américain qui s'appelle One Notrix Point Never, Daniel Lopatine, qui fait des choses extrêmement fracturées, en mouvement, qui serait un peu l'équivalent, je sais pas, de ce que font certains plasticiens qui travaillent comme ça avec l'esthétique. Voilà, il y a une esthétique internet, même si elle est difficile à je ne sais pas si elle est belle ou si elle est laide, mais en tout cas, elle existe. Si on parle des œuvres musicales en soi, c'est des œuvres musicales qui méritent toute notre attention. On peut pas, c'est pas une musique qui se consomme comme elle a été conçue. Voilà. Moi, je sais qu'il y a c'est une musique qui me demande encore plus d'attention en fait que beaucoup de musiques qui ont été faites de manière beaucoup plus traditionnelle.
Et donc le genre d'attention qui n'est pas... ça me fait penser à un article qu'il y avait dans la dernière revue, dans le dernier numéro d'Audimat sur les listes. Donc un article, pourquoi je refuse de faire des listes. Vous savez, maintenant, toutes les fins d'année, il y a les 10 meilleurs albums, les 50 meilleures chansons. Et en fait, l'auteur de cet article...
C'est Drew Daniel, voilà, qui est un musicien aussi.
Dit qu'il refuse cela parce que c'est un symptôme, en fait, justement, de deux choses. D'une part, du raccourcissement, enfin de l'économie de l'attention, où on nous demande de faire des choses les plus rapides possibles pour ne pas perdre d'auditoire, mais également c'est un symptôme du rapport avec l'industrie où on nous dit voilà ce qu'il faut consommer quoi.
Alors, il y a plusieurs choses hein, là-dedans. Il y a effectivement le fait que voilà, la petite forme, la playlist, c'est une manière de... Il faut savoir que on sait comment les gens se comportent sur Internet. Voilà, on a des outils qui nous permettent de savoir combien de temps, en moyenne, les gens restent sur un article, combien de secondes ils restent sur un site. C'est absolument terrifiant. C'est-à-dire que les gens... ou combien de temps ils ont passé à écouter un morceau de musique. C'est moins de 20 secondes, c'est hallucinant. C'est-à-dire que... Donc c'est... Il faut trouver des stratagèmes pour faire en sorte que les gens restent et qu'ils lisent ce qu'on leur donne à lire, pour faire en sorte malgré tout que de donner de la pensée aux gens, ce qui est très difficile parce qu'on le sait, les idées complexes, elles ont besoin de temps pour être expliquées. Le temps de la lecture, le temps de l'écriture, c'est pas le même que le temps de et que les gens ne lisent pas sur Internet, très peu. Voilà. Donc il faut trouver des stratagèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les articles longs, on peut passer 3 jours à écrire un article extrêmement documenté, faire une enquête. C'est extrêmement difficile de faire en sorte qu'elle soit lue. Voilà. La plupart des gens donnent leur avis sur un article, c'est sur le titre. C'est-à-dire que si jamais vous publiez un article polémique, que vous prenez le temps d'argumenter, de mettre des idées, de faire un vrai développement, vous vous rendez compte dans la manière dont le retour que vous avez des gens qu'ils ne l'ont pas lu et qu'ils s'en fichent, qu'ils ne sont pas là pour le lire. Donc voilà, je ne dis pas que c'est la majorité, mais en tout cas, je pense qu'on utilise tous Internet comme ça, notamment, et que c'est vrai que ça a fait naître des nouvelles formes journalistiques qui sont extrêmement frustrantes. Parce que, comme je disais, une idée complexe, elle a besoin de temps pour être exposée, pour être décrite, pour être expliquée. Et qu'on n'a toujours pas résolu ce paradoxe, qui est que les gens, ils sont avides de savoir, ils sont avides d'apprendre, ils sont avides de théorie, ils sont avides de débats et de débats élevés. Et en même temps, ils ont pas le temps ou ils n'arrivent pas à faire en sorte de prendre le temps de lire les choses qui les intéressent. Parce qu'on est tous trop sollicités tout le temps par d'autres choses. Et que ça ne fait pas du bien au cerveau. Voilà. Donc tout ça, il faut faire avec. On n'a pas le choix. Quand on est journaliste, de toute façon, on nous demande de fabriquer des contenus qui correspondent à ces nouvelles habitudes de lecture. Et qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. Voilà. J'espère que ce n'est pas un nivellement par le bas qui va continuer parce que nos enfants vont beaucoup nous en vouloir, je pense. Voilà.
Alors pour terminer sur une note peut-être un peu plus positive, est-ce que tu peux nous parler de tes projets d'écriture ?
Des projets de livres. Voilà, c'est un peu suicidaire parce qu'aujourd'hui, écrire un livre, on ne gagne pas d'argent avec ça. Mais plusieurs projets de livres, notamment sur des sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup écrit en Occident, notamment la musique, la pop japonaise des années 70-80, qui est un sujet que je pense qui intéresse des gens, même s'ils ne le savent pas encore. Et même si c'est très compliqué parce que les sources sont toutes non traduites. Voilà. Donc des projets de livres et puis continuer à écrire sur la musique, essayer d'arriver à trouver le temps de le faire correctement, même si c'est toujours un défi au quotidien. Voilà. Parce que le fait d'écrire pour un site fait qu'on est pris dans des, on va dire, dans des échelles temporelles qui sont complètement nouvelles aussi. C'est un truc dont on n'a pas parlé, mais par rapport à l'époque où on écrivait pour un magazine et on avait une semaine, voire un mois pour préparer un article. Aujourd'hui, entre le moment où un morceau de musique arrive et le moment où on a écrit l'article, des fois, il y a moins d'une heure. Voilà. C'est très difficile d'arriver à penser la musique comme ça.